Un scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'ai eu un blanc là. De la science et de la raison. Épisode 257. Et donc aujourd'hui c'est de nouveau un épisode avec Thomas Guillaume. Bonjour.
Salut.
Et on va parler de deux articles qui ont tous les deux trait aux publications scientifiques. Le premier, c'est donc s'intitule Un nouveau genre de peer review. Et c'est un article qui a été publié sur le blog Neurosceptique, un blog anglais évidemment. Et l'autre, c'est un article du New York Times, des vérités individuelles. Oui, juste avant qu'on attaque les articles, tu me racontais, j'allais dire off caméra, mais c'était off micro, que tu as rencontré Florent Martin hier, il était sur Bruxelles, tu veux en dire un mot?
Oui, donc il y avait cette initiative d'un apéro Z, qui je crois d'ailleurs était censé se dérouler conjointement dans d'autres villes aussi en France. Je ne sais pas si ça a eu lieu finalement, mais en tout cas à Bruxelles ça a bien eu lieu. C'était un petit événement, on était 9, mais c'était très sympathique. Voilà, on était manger un morceau, boire un petit verre, on a beaucoup discuté, et voilà, c'était très instructif.
Oui, c'était la première fois que beaucoup de Bruxellois, de ce type Bruxellois, avaient l'occasion de rencontrer Florent, je pense.
Oui, oui, oui. Pour ma part, c'était la première fois.
Oui, oui. Je pense que. Je sais pas si. Moi, il était venu au congrès sceptique à Bruxelles, je crois qu'il y avait. C'était, si mes souvenirs sont bons, en 2004. Je sais pas s'il est revenu.
C'est 10 ans, ça.
Ouais. Ça fait 10 ans, oui, ouais, juste 10 ans. Et vous êtes fait dracher, c'est ça?
Oui, oui, ben on a fait l'erreur de manger en terrasse. Bon, on n'a pas eu beaucoup le choix, à vrai dire, parce que le samedi soir à Bruxelles, en plein centre-ville, c'est plein partout. On a trouvé finalement des tables en terrasse et on a quand même réussi à manger. Et puis après, juste après avoir terminé de manger, la drache est tombée. Et puis voilà, on se l'est ramassé. Quoi. Ben bon, ouais. Ça crée des liens, on va dire.
C'est vrai que le temps n'est pas très bon aujourd'hui non plus. L'été indien est définitivement fini.
Malheureusement.
Alors, l'article dans Neurosceptique, enfin, c'est donc Neurosceptique, c'est un blog assez intéressant que je suis aussi. C'est un des blogs de super bonne qualité sur la neurologie, neuropsychologie, etc. Mm-hmm. Et donc il a écrit cet article, Un nouveau genre de peer review.
Ouais. Alors, malheureusement, c'est vrai que Neurosceptique, c'est un très bon blog. Et j'ai traduit donc cet article. C'était en janvier 2014, donc c'était un de mes tout premiers en fait. Et je l'avais fait un petit peu à l'arrache et j'ai demandé après coup l'autorisation de publier donc à l'auteur, mais aussi aux éditeurs du blog. Et ils m'ont malheureusement refusé l'autorisation de faire d'autres articles. Ouais, c'est un peu dommage, hein. Je leur ai expliqué un peu mes motivations, mais voilà, il y a toute une politique d'utilisation du contenu qui fait que malheureusement je pourrais pas traduire d'autres trucs alors qu'il y a beaucoup d'articles intéressants. Donc voilà.
Ouais, c'est étonnant, mais. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut. C'est vrai que c'est. Oui, ils ont.
Donc, à moins que je continue.
Tu dois déjà être content en fait que tu aies demandé l'autorisation, c'est tout
ouais,
ce que
ouais,
je pensais.
Ouais. Mais... Non, c'est clair. Et ouais, mais je t'avoue, j'ai laissé tomber le fait de demander à chaque fois l'autorisation. Je sais que mon blog a une toute petite audience, donc il y a peu de chances que ça se fasse. Que ça se fasse repérer pour des questions de droits de contenu, de reproduction, j'en sais rien. Et si c'est le cas, bah, je retirerai l'article. Bon, je pense pas que ça va poser beaucoup de problèmes. Ouais. Voilà, soit. C'était une digression. Donc oui, l'article, c'est « A new kind of peer review », un nouveau genre de peer review. Alors, je pense qu'on va utiliser peer review en français aussi, hein, non? Parce que j'ai toujours du mal à traduire ça.
C'est revu par les pairs.
On parle de comité de lecture aussi.
Comité de lecture, ouais.
Peut-être pour préciser ce que c'est. Ouais, je crois qu'il faut en fait d'abord expliquer comment ça marche.
Ça, c'est clair, pour publication... les auditeurs
qui ne savent pas. Ouais. Donc, une publication scientifique. Ça se passe en plusieurs étapes. La première, bien sûr, c'est d'abord de faire la recherche, donc de poser une question de recherche, une hypothèse de travail, de faire les expériences qu'il faut pour arriver à un résultat. Une fois qu'on est arrivé au bout du processus là, ben on commence à écrire un article. Et l'article en question, il a toujours une structure assez similaire. Il commence par une intro qui sert à poser un peu le contexte, à savoir quelles questions on va se poser, qui d'autre a déjà étudié un peu le sujet. Une fois qu'on a posé ça, on va parler de la méthodologie dans une section qui porte souvent le titre Materials and Methods, donc matériel et méthode. Et donc le but de cette section, c'est de décrire de façon la plus détaillée possible quelle est la méthodologie qu'on a identifiée pour répondre à la question qu'on s'est posée. Une fois qu'on a bien expliqué tout ce qu'on avait fait, ah oui, le but de cette partie méthodologie, c'est de permettre donc éventuellement la critique de l'expérience. Parce que si quelqu'un trouve qu'il y a un défaut dans la méthodologie, bah, il peut le critiquer, on peut améliorer l'expérience et avoir des résultats plus solides. Et ça permet aussi pour d'autres chercheurs qui veulent étudier le même sujet, bah, de reproduire éventuellement la même méthodologie. Ensuite, il y a la section résultats, où en général assez courte, où on présente les résultats bruts. Et puis, il y a toute une section qui vient avant ou après les résultats, ça dépend un peu des journaux. Une section discussion, conclusion, dans laquelle on commente les résultats. Donc voilà, on essaie d'identifier pourquoi ça marche très bien ou pas aussi bien que ce qu'on pensait ou pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Qu'est-ce que ça a comme implication pour de futures recherches, etc. Et il y a aussi en tout début d'article, je ne l'ai pas encore cité, mais l'abstract, donc un espèce de résumé de tout l'article qui sert en fait pour. Voilà, quand quelqu'un cherche des infos, il va avoir vite fait en quelques lignes l'essence de la recherche.
Ouais, juste une petite réaction comme ça, c'est vrai que c'est tout à fait juste évidemment, hein. Pour la psychologie expérimentale, c'est aussi comme ça que ça se passe. Mais évidemment, c'est vrai que pour les sciences humaines, parfois en sociaux, où il n'y a pas de composante expérimentale comme ça, évidemment, on pourra avoir du peer review sur des articles qui n'ont pas de composante expérimentale, hein, mais enfin,
Oui, c'est
ou en
vrai. Oui,
philo par exemple.
j'aurais dû préciser que je parlais en fait de sciences dures et enfin donc,
Vraiment
enfin
expérimental.
sciences
Mais
expérimentales, quoi.
ça se justifie parce que tu vas expliquer après par la proposition qui est faite pour le nouveau genre de peer review. C'est
Voilà.
vraiment pour ce genre de recherche-là que
Ouais, tout à fait.
ça
Oui,
s'applique.
donc parce que après, donc une fois qu'on a écrit cet article, on le soumet à un journal scientifique, ou à une revue scientifique. Donc les revues scientifiques sont des revues spécialisées. Il y en a dans tous les domaines, il y en a même plusieurs par domaine souvent. Et les revues dans lesquelles on souhaite publier, les plus prisées, ce sont celles qui ont un comité de lecture ou un système donc de peer review. Donc là, le concept, c'est que l'éditeur reçoit l'article du chercheur et va le soumettre à d'autres chercheurs en fait qui sont considérés comme des experts dans le domaine concerné. Et ces experts vont donc faire des commentaires, vont en fait soumettre leur avis à l'éditeur par rapport à cet article, et ils vont donc proposer, ben, enfin, soit dire que ça vaut rien, donc il vaut mieux pas publier et proposer d'aller chercher ailleurs, ou alors c'est très intéressant, mais il y a ceci, cela qu'il faut expliciter, ou enfin bon, il y a des choses à modifier, et donc l'éditeur revient vers l'auteur en demandant une série de modifications. Ou alors, si vous êtes vraiment très chanceux, ça passe du premier coup. Je pense que c'est extrêmement rare. Il y a toujours des petites modifications à faire, mais
Toujours des grincheux derrière.
ouais.
Un élément important, je pense, probablement parce que pour nous c'est évident, mais l'article est soumis aux reviewers de manière anonyme, évidemment, donc les reviewers ne savent pas de qui provient l'article, parce que sinon ça pourrait
Ouais.
influencer leur jugement. Ce qui n'est pas toujours parfait, puisqu'en pratique, il y a parfois moyen de deviner dans certains contextes.
Oui, il y a moyen de deviner. Et en plus, il y a des façons, enfin, ça dépend des journaux, mais parce que je travaille un peu dans le milieu de la recherche aussi clinique, en l'occurrence, avec pas mal de publications qui sortent aussi de notre institut, il y a certains journaux dans lesquels on peut proposer, suggérer des experts. Parfois, c'est vrai qu'il y a des mondes un peu restreints où il y a Voilà, tout le monde se connaît un peu et on sait que X ou Y est un expert en particulier qui connaît bien ce sujet-là et donc c'est lui qui est le mieux placé pour répondre, pour faire son boulot de reviewer. Et voilà, donc on peut les suggérer, bon, ça ne garantit pas du tout que ça va aller chez lui, mais voilà.
Bonne manière, oui, c'était un. Je crois qu'on avait fait un épisode, j'avais fait une interview, on avait un peu parlé des problèmes liés au peer review. Mais justement, enfin, on va parler un peu des problèmes liés au peer review, puisque c'est une suggestion pour améliorer le peer review après, hein, qui va arriver par la suite. Mais juste pour rigoler, j'avais sur Twitter, il y avait une chercheuse qui avait posté une lettre qu'elle avait envoyée à un éditeur scientifique en disant merci. Je trouve l'article que vous m'avez envoyé pour évaluation excellent. Néanmoins, je pense qu'il y a un conflit d'intérêt comme je suis l'auteur principal. C'est vrai.
Mais ça c'est pas mal ça.
C'est vrai qu'il faut vraiment le faire, quoi.
Oui, ça. Elle a eu au moins l'honnêteté de préciser qu'il y avait un conflit d'intérêts.
Ouais, forcément, elle est une experte dans le domaine.
Ouais, ouais. Oui, si t'es tout seul expert dans un petit domaine, ouais. Pas mal. Voilà, donc l'article de Neurosceptique, en fait, il parle de deux choses. Il parle d'une proposition d'un autre chercheur, docteur Ivo Smulders, aux Pays-Bas, qui fait une proposition d'une soumission en deux étapes. Et lui-même, enfin l'auteur donc Neurosceptique, dont je connais d'ailleurs pas le nom, on va dire. Tu connais,
Non, non,
Jean-Luc?
non, c'est
Non.
vrai, je ne sais pas.
Donc on a juste son
Il est
pseudo.
anonyme, je pense, hein, donc
Voilà.
il signe toujours neurosceptique ou comme ça, donc on ne sait pas.
Ouais. Enfin, toujours est-il qu'il réagit sur l'article de Smulders et revient en fait sur une proposition qu'il avait lui-même faite un peu auparavant sur voilà, sur une façon de modifier le processus de publication. Donc, comme je l'ai expliqué, le processus actuel, c'est de faire l'étude, de faire la recherche, d'écrire un article, et le tout est soumis au peer review, et puis après, si tout se passe bien, il y a la publication. Et souvent, un des problèmes les plus importants dans le processus de publication, c'est ce qu'on appelle le biais de publication. Et c'est le fait que il y a une tendance générale en fait dans les journaux scientifiques à ne publier que les résultats qui sont positifs. Donc, quand on pose une question, est-ce que je sais pas tel médicament marche mieux que tel autre? Si le résultat est oui, ça va être publié. Si le résultat est non, il y a des chances que ça ne soit pas publié. Ce qui est extrêmement extrêmement dommage, extrêmement critiquable et critiqué d'ailleurs, parce que ce genre de réponse négative est tout aussi important. Je veux dire, si on prend justement l'exemple des médicaments, si on sait que ça marche pas mieux ou limite moins bien qu'un autre, il y a quelqu'un qui se pose la question, il fait de la recherche, il montre que ça marche pas mieux. S'il le publie pas, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont se lancer potentiellement dans le même genre d'études. Et soumettre des patients à des médicaments qui marchent pas, dont on sait qu'ils marchent pas, enfin en tout cas quelqu'un sait qu'ils marchent pas, et puis voilà, c'est du temps perdu, c'est des soins perdus, c'est de l'argent perdu. Donc voilà, et donc ce problème de biais de publication, c'est une des raisons pour lesquelles l'auteur propose une façon
Mais c'est ce
différente de
qui est souvent
publier.
appelé aussi le file drawer effect, donc l'effet tiroir, hein,
Ouais.
quand que le chercheur, volontairement ou involontairement, met la recherche dans son tiroir et elle n'en sort plus. Bon, évidemment, l'involontaire, c'est qu'il le soumette, mais comme il a des résultats négatifs, elle n'est pas publiée. Et puis il y a aussi, oh, j'ai eu des résultats négatifs, je sais bien que j'aurai vraiment beaucoup de mal à le publier, donc je ne vais même pas essayer de le publier.
Voilà.
Et c'est vrai que bah, le problème, en fait, oui, le file drawer effect, c'est assez classique, c'est que si. C'est même pas enfin, il y a l'aspect d'autres vont peut-être refaire la recherche, mais simplement, on peut croire qu'un effet est réel juste parce que toutes les personnes qui ont trouvé un résultat négatif n'ont jamais publié. Alors, on a que les recherches qui ont obtenu des résultats positifs, donc ça donne une fausse impression que l'effet étudié est réel, quoi.
Oui, surtout qu'en plus, beaucoup de recherches, finalement, trouvent des résultats avec l'aide des statistiques. Hein, donc, c'est des effets souvent subtils qu'on essaie à déceler, qui ne sont pas hyper évidents à mettre en avant, et donc on a besoin des stats pour les étudier. Et souvent, dans ces façons d'étudier les résultats, on met un niveau de significativité, donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'être sûr à un certain pourcentage de certitude. Donc on va se donner un niveau de certitude comme ça de 95% par exemple, qu'on n'a pas rejeté par erreur l'hypothèse adverse. Mais ça veut dire que du coup, sur une centaine d'études qui traitent du même sujet, il y en aura parfois qui seront positives juste par chance. Donc, si c'est ceux-là qui sont publiés et que tous les autres ne le sont pas, on a effectivement l'impression d'avoir un effet là où en fait il n'y en a pas du tout.
Oui, et puis c'était Bell-Kandecker, je crois, sur les en médecine en Angleterre,
Ouais.
qui avait lui qui avait mis carrément en évidence que les sociétés pharmaceutiques font un certain nombre de recherches et puis elles sont pas tenues de publier leurs recherches
Voilà.
négatives, donc elles publient leurs résultats positifs. Et ça donne l'impression aux médecins qui lisent la littérature que les médicaments fonctionnent alors qu'en
Absolument.
réalité.
Et pour ceux qui sont intéressés, dans les commentaires de l'article sur mon blog, ah non, pardon, je pense, non, dans un des commentaires, je repartage le lien vers cette conférence où il explique tout ça. C'est une conférence super intéressante. C'est une conférence TED, donc je pense qu'il y a des
Ah oui.
sous-titres en français.
Ah oui, c'est
Donc,
bien. Oui, non,
voilà.
intéressant, je crois que je l'ai vu passer, ça doit être bien une conférence TED. Oui. Enfin, ça s'est basé sur son dernier bouquin, de toute façon. Mais...
Ouais.
Oui, il y a quand même, mentionnant que je ne suis pas statisticien, c'est un truc pour Nicolas Goury, mais il y a quand même des méthodes statistiques qui permettent d'estimer le Fildrawer effect et de voir si les résultats qu'on obtienne dans des sortes de. C'est un peu des techniques similaires aux méta-analyses, mais pour voir si les résultats qu'on a obtenus pourraient s'expliquer par du Fildrawer effect. Mais je ne suis pas du tout un spécialiste de ce sujet-là. Donc évidemment, je crois qu'il y a quand même beaucoup de discussions pour au lieu d'essayer de dire on va essayer d'estimer à quel point nos résultats pourraient s'expliquer statistiquement par le Fildrawer effect. L'idée qu'on va avoir dans l'article, c'est essayons plutôt de bif. Ou en parallèle de minimiser le Fildrawer
Tout
effect.
simplement, oui, voilà.
C'est normal.
Et pour revenir sur ce que tu disais sur les entreprises pharmaceutiques, donc elles ne sont pas tenues de publier, mais par contre, il y a quand même en tout cas dans la recherche clinique, hein, en hôpital, on est obligé de rapporter, donc pas d'écrire des articles scientifiques, mais comment toutes les études sont enregistrées et centralisées, et le statut de l'étude, donc. Combien de patients ont été recrutés, où ça en est, est-ce que c'est une étude terminée ou pas. Ça, tout est enregistré, on est obligé de le faire. Ce qui veut dire que on peut, si vraiment on veut chercher toutes les études qui ont eu lieu sur un médicament, par exemple, et voir s'il y a eu une publication associée à ce truc-là. S'il n'y en a pas eu, ben, on peut supposer peut-être que simplement le résultat était négatif.
Ouais, d'ailleurs, Bell-Gandecker s'en est rendu compte à un moment donné, c'est justement parce qu'il a vu passer des trucs, il se dit, oui, mais attends, je sais pas. Et alors, il a contacté les sociétés pharmaceutiques pour avoir les résultats, et puis les résultats précis, les articles complets, je pense, ou en tout cas que les protocoles et les résultats. Et les sociétés pharmaceutiques lui ont dit, oh non, on vous les envoie pas, il n'y a pas de raison.
Ouais.
Ce qu'il a assez mis sur le cul.
Ouais. Ouais, parce qu'évidemment, ils protègent. Enfin, ouais, c'est tout
Et les sociétés
en
pharmaceutiques
fait.
sont en fait ce qu'elles font est totalement légal dans le système actuel,
Oui, c'est
donc
ça,
on peut pas
voilà.
leur
Tout
reprocher
à
quoi.
fait.
Et donc les solutions proposées sont
Voilà, alors, oui, parce qu'on a beaucoup parlé du processus. Ah, le processus modifié, donc il en propose deux, en fait. Donc celui de Smulders et puis le sien. Celui de Smulders, c'est donc une publication un processus en deux étapes. Donc là, il y a d'abord la recherche qui est faite et toutes les expériences sont faites et les résultats récoltés. Et puis en fait, quand les auteurs soumettent l'article, ils ne soumettent que la partie intro et méthodologie. Et c'est cette partie-là qui va être soumise donc à la revue par les pairs, au peer review. Et donc, il n'y a que là-dessus que les experts peuvent juger. Personnellement, je trouve ça très pertinent parce que du coup, du point de vue de l'éditeur, tu sais pas encore si les résultats sont positifs ou pas. Tu sais pas encore de quoi ça va discuter au niveau de la conclusion et la discussion des résultats. Mais tu peux évaluer en fait les deux choses qui, à mon sens, sont le plus importantes quand tu fais de la recherche. C'est bah, d'abord est-ce que la question posée a de l'intérêt. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'introduction en gros. Et puis surtout, est-ce que la méthodologie proposée pour répondre à la question, est-ce qu'elle est solide celle-là? Et en gros, c'est vrai que si on se base que là-dessus, si on est sûr qu'avec la méthodologie X pour répondre à la question Y, on aura des résultats vraiment, vraiment béton, ça devrait en principe suffire pour publier. Donc, Et donc ça, c'est la proposition de Smulders. Donc on soumet l'introduction et la méthodologie. Ça, c'est soumis au peer review. Et puis l'éditeur accepte ou n'accepte pas la publication. Et alors seulement les auteurs écrivent le reste, donc les résultats et la conclusion. Donc ça, c'est le premier processus. Le second est un petit peu modifié dans le sens où les chercheurs écrivent avant toute chose, avant même de faire les expériences, écrivent leur introduction et la méthodologie proposée. Et donc avant même de faire l'expérience, cette partie-là est aussi soumise au peer review. Et c'est seulement si les experts voilà, trouvent la méthodologie correcte que les chercheurs se lancent dans la vraie expérimentation. Et puis, une fois qu'ils ont terminé leur recherche, ils reprennent leur article de base, ils ajoutent les résultats à la conclusion et resoumettent pour la publication.
Ouais, moi c'est toujours la dernière version dont j'avais entendu parler, et j'avais pas vraiment entendu parler avec peer review. C'était juste bon, pour prendre évidemment l'exemple que je connais, parce que c'est un des sujets qui m'intéresse sur la parapsychologie. Comme on reproche souvent, on dit les effets sont liés au Fadrow effect. Alors ils ont créé des databases, enfin des bases de données où on peut encoder la recherche avant de la réaliser, quoi. Donc c'est vraiment juste enregistrer les recherches. Comme ça, avant de les faire, sans qu'on connaisse les résultats, puisqu'on n'a pas encore fait l'expérience, et de manière à dire, ben, comme ça permet de limiter justement ce Fadrow effect.
Voilà, sauf qu'ici, ils ajoutent le peer review.
Ils rajoutent le peer review en plus.
Ouais, pour donner un jugement sur la robustesse de la méthodologie.
Je pense que juste en réfléchissant comme ça, je crois que le problème avec cette méthode-là, c'est que ça rajoute beaucoup de travail pour les chercheurs, parce que. À mon avis, pour le peer review, il va avoir vraiment beaucoup de. Oui, en plus, il faut savoir déjà à l'avance dans quelle revue tu vas la soumettre. Enfin,
ouais,
ouais. Je pense que les reviewers vont. Ça va augmenter leur charge de travail. Enfin bon, probablement que ce serait l'idéal, hein, ça c'est clair. Je crois que la two-step review, la version avec deux étapes, elle est plus économique en termes de travail pour la communauté académique, quoi. Tandis que le pre-peer review me paraît probablement plus lourd à mettre en place. L'avantage de l'encodage dans une base de données, du fait de dire je vais faire une telle expérience à l'avance, ben, c'est que c'est probablement totalement automatisé. Tu remplis un bazar, tu envoies un PDF, et personne n'a besoin d'y jeter un coup d'œil, mais tu es quand même
Ouais,
dans la base de données, quoi.
voilà.
Donc.
J'ai aussi une préférence pour le review en deux étapes où on fait d'abord la recherche et puis on soumet que l'introduction et les méthodes parce que c'est plus économe pour le temps, mais c'est aussi plus réaliste, j'ai l'impression. Parce que il y a beaucoup de recherches qui se fait sur des sujets extrêmement complexes où tu découvres parfois un peu au fur et à mesure de tes expériences des choses que tu ne savais pas ou alors voilà, tu as des résultats intermédiaires parfois étranges et tu rencontres d'autres chercheurs pour en discuter. Donc en cours de route, tu modifies un petit peu tes expériences ou tu dis je vais en ajouter d'autres pour voir si ceci ne peut pas expliquer par un autre effet, je ne sais pas.
Je crois que le problème, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais le problème, en fait, c'est que ce que tu décris là, ça peut aussi être,
Oui,
en
oui.
fait, ce qu'on appelle de la beautification,
Oui, absolument.
masser les données. Et l'avantage d'encoder tout à l'avance, c'est que tu peux pas t'amuser à masser les données pour essayer d'influencer les résultats dans un sens ou dans l'autre. Alors que le two-step review ne fait que résoudre le problème du Fadrow effect, mais le chercheur de départ peut quand même. Il a fait son expérience et donc il a déjà des résultats. Et donc s'il a par exemple une hypothèse dans laquelle il est très engagé en tant que chercheur, et tous les chercheurs sont très engagés dans les hypothèses qu'ils défendent de toute
Oui,
manière,
enfin,
il peut déjà avoir bien massé les données, un peu améliorer les données au moyen des méthodes de beautification. Enfin, je sais pas de la malice, hein, je veux dire que ça peut se faire
non, non,
vraiment
ça
tout à
peut
fait
inconsciemment
consciemment, quoi.
avec plein de bonne
Donc,
foi, il y a pas
c'est, finalement, évidemment, le pre-peer review serait la méthode idéale parce qu'elle bloquerait ça aussi, quoi, en
Voilà,
plus.
elle bloque ça, mais elle bloque alors du coup aussi d'autres avantages à avoir une certaine liberté d'action dans tes expériences parce que voilà, en raison de la complexité de certains effets étudiés, se bloquer dans une méthodologie et ne pas pouvoir en bouger, ça, c'est éventuellement, voilà, c'est éventuellement se tromper aussi sur la finalité, sur le résultat. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de méthode idéale, mais certainement, au moins l'un des deux est déjà une amélioration par rapport au système actuel. Ça, c'est. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, le problème maintenant, c'est que s'il faut mettre ça en place, il faut que les éditeurs acceptent ce changement et se mettent à publier des, voilà, des résultats qui sont beaucoup moins sexy, du coup. Parce que ça, effectivement, malgré qu'on soit dans le domaine scientifique, où en principe, il n'est pas question de parler de la beauté des résultats, il n'y a rien à faire. Il y a aussi un effet médiatique dans les journaux scientifiques aussi. Quand il y a un truc béton qui sort, hyper inattendu.
Ah, c'est clair.
Il y a eu des exemples dans le passé. Je crois qu'un des plus récents, c'est peut-être le coup des neutrinos avec des neutrinos qui allaient plus vite que la lumière. Ça a fait beaucoup de buzz. Probablement si. Bon, c'est pas uniquement lié au problème de biais de publication, puisque rien n'avait été publié encore, mais. Enfin, encore que je ne sais pas, ça, il y avait quelque chose de publié.
Non, je pense qu'il n'y a pas eu tellement de problèmes avec cette annonce. Ça a fait beaucoup de buzz, mais enfin, c'est tout. Là, je crois que c'est plus lié à la manière dont les médias traitent l'affaire.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que les chercheurs, ils ont plutôt dit simplement on a un mystère sur nos bras, on a fait tous les tests auxquels on pouvait penser. Maintenant, est-ce qu'on demande aux collègues, est-ce que vous pensez à d'autres voilà. explications pour l'anomalie qu'on a.
Effectivement. Et ils ont assez vite trouvé l'erreur, effectivement.
Alors évidemment, le problème, c'est que les médias, eux, ils ont explosé sur on a réfuté Einstein et tout. Enfin voilà quoi.
C'est clair. Mais donc, pour dire qu'effectivement, vu les médias qui sont sur le taquet comme ça, pour récupérer les résultats de la science, je veux dire, si d'emblée les éditeurs publient voilà, des choses extrêmement sérieuses, il y aura moins de jeu, moins d'espace de jeu pour les médias pour gonfler les résultats comme ça.
Ouais. Je crois que le second article dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui explique bien, parce qu'en fait, finalement, il y a des problèmes dans les résultats qu'on a.
Oui, oui.
Et la question, c'est vraiment comment essayer de rendre les résultats qu'on a beaucoup plus solides, quoi.
Ouais.
Il y avait d'autres solutions, comme aussi avoir des articles qui seraient... où il serait possible de commenter en dessous de l'article comme ça, ou en tout cas pour reprendre qu'on a un accès universitaire, enfin tout le monde ne pourrait pas commenter de manière libre, mais enfin toute la communauté des experts pourrait commenter une fois l'article publié, comme ça, après le premier, il y aurait une peer review originale, puis une publication, et puis une fois que l'article est en ligne, à ce moment-là... les autres experts qui peuvent encore peer reviewer, en gros.
Voilà, du peer review indirect et a posteriori.
C'est toutes des solutions qui sont débattues. Je la cite juste pour mettre dans le contexte de cet article-là.
Oui.
Les situations, les solutions qui sont discutées pour essayer de résoudre les problèmes dont on va parler finalement.
C'est ça. Mais, évidemment, la critique post-publication, elle existe toujours, hein, mais c'est vrai qu'elle n'est pas. Elle n'est pas partagée comme ça. Je veux dire, si tu lis un article et voilà, tu penses qu'il y a une erreur ci ou là, tu vas contacter l'auteur et puis voilà, vous avez une discussion à deux, mais le reste de la communauté n'est pas forcément impliqué et c'est quelque chose qui pourrait aider, mais ouais.
Ouais.
Qui pourrait être aidé aussi technologiquement, ne fût-ce que parce que la publication devient online et permet du coup d'offrir des outils.
Ouais, ça c'est clair que c'est lié à l'internet, ça c'est.
Ouais.
Mais c'est vrai, et puis par exemple, les autres chercheurs qui sont compétents mais qui ne sont pas dans un expert sur le sujet vraiment très spécifique de l'article peuvent lire les critiques faites par les autres experts et du coup se faire une meilleure opinion, y compris aussi les journalistes scientifiques. Bon, évidemment, après c'est la compétence des journalistes scientifiques, mais voilà, ça met la recherche dans un meilleur contexte.
Enfin, oui.
Non, mais de toute façon, je ne sais pas quelle est la bonne solution. Je voulais juste dire, c'est vrai qu'il y a des gros débats sur comment essayer d'améliorer le truc.
Oui, non, mais ce serait même utile pour les sceptiques eux-mêmes. Je veux dire, je lis quand même. Allez, on voit des adeptes, je sais pas moi, de l'acupuncture ou du Reiki, j'en sais rien, qui viennent avec une nouvelle étude qui soi-disant montre que ça marche bien, que les méridiens existent, j'en sais rien. Et moi j'ai tendance à vouloir aller lire l'article original du coup. Bon, j'ai dans certains cas j'ai suffisamment de background scientifique pour faire une critique de l'article. Parfois j'en ai juste pas assez et là ça aurait été vachement utile que du coup il y ait d'autres gens qui se soient penchés sur la question et fassent des critiques accessibles à tout le monde, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ouais.
Alors, des vérités individuelles du New York Times.
Oui. Des vérités individuelles. Alors, ça c'est pour la parenthèse, mais j'ai eu beaucoup de mal à traduire le titre original, qui est donc en anglais « New truths that only one can see ». Donc, littéralement, des nouvelles vérités que seulement une personne peut voir. Le titre va avoir un peu de sens en expliquant de quoi parle l'article. Donc, en fait, l'article parle du problème des recherches qu'on ne peut pas répliquer, en fait. Non réplicables, non reproductibles. Et donc, le titre veut dire par là qu'il y a un problème dans les recherches où il y a un chercheur qui a montré quelque chose. Lui, il voit la vérité, entre guillemets, et les autres n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à répliquer les résultats en question. Donc c'est un article pour le citer de George Johnson et publié donc dans la section science du New York Times. Alors donc en fait Johnson parle de deux articles d'un autre chercheur, le Dr John Ioannidis, qui a publié un article intitulé Pourquoi la plupart des résultats publiés sont faux. Ça, c'est la traduction. En anglais, c'est autre chose. Je vais vite le chercher. C'est « Why most published research findings are false ». Donc, là, littéralement, c'est pas très difficile à traduire. Et donc, le docteur Ioannidis, là en question, voilà, il écrit un article pour d'abord dénoncer le problème de la recherche qui n'est pas... Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés et qu'on n'arrive pas à répliquer. Donc des résultats qu'on considère comme acquis parce qu'ils ont été publiés, mais qui en réalité, quand d'autres chercheurs essayent de reproduire l'expérience, n'y arrivent pas. Et alors il donne une série de raisons pourquoi les gens n'y arrivent pas, et en fait pourquoi à la base le résultat qui était positif l'est peut-être pas, tout simplement. Il cite notamment le fait que simplement dès le départ, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont des grandes chances d'être fausses d'emblée, parce que simplement les gens, il y a un peu l'ambition du scientifique qui veut qui veut faire sa publication, qui veut un résultat frappant et qui va tabler sur une hypothèse limite audacieuse et faire des recherches, mais voilà, a priori, il n'y a aucune raison de penser qu'il a raison par rapport aux autres, donc il se lance d'emblée dans une recherche qui, potentiellement, va donner des résultats négatifs. Voilà.
Oui, donc de par chance, de temps en temps, certains de ces auteurs vont obtenir des résultats positifs et les publier, et ils se font une carrière sur ce sujet-là. Oui, et le problème, je pense que c'est pas évident, je crois, pour les gens qui sont peut-être pas très au courant de la science telle qu'elle est vraiment sur le terrain. Mais, parce que tout le monde sait, oui, il faut que les recherches soient réplicables pour qu'elles soient vraiment validées. Donc, on se dit, bah oui, les scientifiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une recherche, et puis les autres scientifiques font des réplications, et dans le meilleur des mondes, seuls les effets qui ont été prouvés et répliqués de très nombreuses fois sont acceptés par la communauté scientifique.
Ouais.
Ça, c'est le modèle idéal qu'on vend dans les livres de vulgarisation sur la méthode scientifique. En pratique, ça ne se passe pas comme ça. Et une des raisons, je pense quand même, pour que ce soit clair, je crois pour les auditeurs, je me souviens que quand j'étais vraiment en licence, par exemple, pour la fin de mes études en psycho, je m'intéressais... Oui, je voulais faire une réplication d'une recherche, par exemple, en parapsie, par exemple. Et alors, je me souviens, on en a parlé à un promoteur potentiel, et il me disait, aussi en psychologie de la religion, on m'a tenu le même discours, on me dit, oh non, mais des réplications strictes, ça sert à rien, quoi.
Ouais,
c'est pas vendeur,
ouais.
On sait pas les publier, quoi. Quel journal est enfin, on revient sur le sujet dont on parlait avant, mais les réplications strictes sont pas intéressantes,
ouais.
Parce que c'est pas vendeur. On fait pas sa carrière sur des réplications strictes, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on doit faire des réplications où on altère certains éléments de l'expérience. Mais alors, le problème, c'est que c'est plus des réplications strictes. Mais en fait, c'est plus des réplications du tout, puisqu'on change certains. C'est-à-dire que si on change certains des paramètres pour que la recherche soit intéressante parce qu'elle n'est pas une réplication stricte, si on obtient des résultats différents de l'auteur original, qu'est-ce qu'il va dire? vous avez obtenu des résultats négatifs à cause des paramètres que vous avez fait varier.
Ouais.
Mais l'effet, ça n'invalide pas l'existence de l'effet de départ.
Voilà. Oui, c'est un vrai problème, hein, parce que oui, je pense qu'il y a, beaucoup moins d'articles publiés qui sont des pures réplications que des nouvelles recherches, évidemment. Bon, il y a quand même tout ce qui est méta-analyse qui permet de plus ou moins pallier le problème. Donc les méta-analyses, c'est le fait de rassembler toutes les recherches sur un sujet en particulier. Et d'essayer de ranger un peu ces différents articles en fonction de leur qualité méthodologique et puis de voir s'ils sont tous cohérents l'un par rapport à l'autre.
Mais même pour les méta-analyses, idéalement, il faudrait avoir que des vraies réplications.
Voilà.
Et comme les gens qui font des méta-analyses n'en ont pas, ils essayent de classer, de trouver des choses qui sont des réplications proches, mais alors après, ça
voilà,
même ça, c'est problématique.
Voilà, c'est loin d'être parfait. Et encore une fois, il y a tout le problème de... Voilà, on n'a déjà pas envie de faire de réplication parce qu'on sait qu'on ne va pas être publié ou très peu. Mais quand on a un résultat négatif, on va avoir tendance à ne même pas le publier parce qu'il y a peu de chances qu'il soit accepté. Donc, quelque part, il y a un problème... Pas seulement des chercheurs, parce que... Enfin, c'est le renard qui se mord la queue, quoi. Les chercheurs, ils ont certainement envie de travailler, comme les autres, et voilà, mais ils vont se mettre d'emblée des bâtons dans les roues, parce qu'ils savent bien que derrière, l'éditeur va probablement pas accepter un article qui parle de réplication ou qui donne un résultat négatif.
Oui, l'exemple culte que j'aime citer maintenant, c'est évidemment Chris French, Weissman et Ritchie. Je crois que le premier auteur, c'était Ritchie, en fait. Mais enfin, Chris French et Weissman et Torlesta, qui ont essayé de répliquer... Non, ils n'ont pas essayé. Ils ont fait séparément des réplications de l'expérience de BEM. Et puis, ils l'ont soumis à l'article qui avait publié originellement les résultats positifs de BEM et la revue qui avait publié ces résultats, donc qui prouve l'existence d'un effet psi, hein, a dit « Ah, on ne peut pas publier vos réplications, puisque ce sont des échecs de réplication.
Ouais, c'est pas... Donc, c'est complètement absurde, quoi. C'est complètement absurde. Oui, c'est un peu le premier qui arrive à donner une réponse à un sujet, il va la publier, et puis les autres, s'ils ont des résultats différents, c'est qu'ils ont fait des erreurs. Ouais.
Donc c'est effectivement très problématique. Je me souviens d'avoir lu... Enfin, j'avais lu même des débats qui ont suivi les publications du gars dont il parle.
Ioannidis. Ouais.
Parce que par exemple en psycho, à mon avis, ce qu'il dit là est très, très problématique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on croit en psycho qui sont probablement pas vraies.
Oui, oui.
Des faits avérés.
Oui, oui. Mais ce qui est dramatique, c'est que il se base, enfin, il est plutôt centré sur la recherche médicale, je crois, clinique, et que même là.
Ouais, même si c'est en médecine.
Même si c'est... Ouais, donc avec des conséquences aussi potentiellement graves. Là, ouais. Et alors dans l'article, il cite aussi un autre effet. Qui peut donner une explication ou être un des facteurs qui joue dans le problème de la réplication, c'est le fait que les expériences sont d'une complexité croissante, en fait, et donc demandent une sorte de savoir-faire un peu unique, qui demande des années de maîtrise pour chipoter avec telle lignée cellulaire ou tel appareil extrêmement sensible. Et donc l'argument quand il y a des recherches qui publient des résultats contraires, c'est que simplement, même s'ils ont appliqué la même méthodologie, ils ne l'ont pas fait avec le même savoir-faire. Mmh. Il parle dans l'article de connaissances tacites à propos de comment on fait une bonne expérience. Et ce qui, à mon avis, pas tout à fait faux, je pense qu'effectivement, il y a des recherches qui demandent une expertise pratique, un savoir-faire assez spécialisé.
C'est le problème de la partie méthodologique dont on parlait avant. Est-ce qu'elle décrit vraiment tout ce que devrait savoir un chercheur pour pouvoir reproduire les résultats?
Voilà.
Et c'est une question qui est connectée avec ce qu'on appelle l'effet expérimentateur en français. Ouais. qui aussi, voilà, c'est-à-dire que en fonction des attentes des chercheurs, on obtient des résultats différents. Ouais. Alors évidemment, on en parle beaucoup parapsy, je reviens toujours là-dessus, mais bon. Parce qu'ils disent, ben oui, c'est de la psychokinèse, des effets psy, mais en psycho, l'effet expérimentateur, c'est juste ça, ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que si le chercheur a une attente par rapport au résultat, il y a toutes sortes de petites choses, de petites manipulations, liées à son savoir-faire extrêmement précis dans le domaine, qu'il peut faire, Encore une fois, manipuler. Donc ça, c'est pas manipuler les résultats au niveau statistique, mais manipuler au niveau même de l'expérience.
L'expérience.
Alors en fait, on constate cet effet expérimentateur. L'astuce, c'est qu'on ne sait pas toujours très bien dire comment, qu'est-ce qui le produit, quoi. Mais c'est des micro-artefacts au moment de la réalisation de l'expérience elle-même. Mais... peut-être pas nécessaire d'invoquer un truc paranormal là-dedans, mais...
Non, non, c'est ça. C'est des petites façons de modifier imperceptiblement les résultats, mais... voilà, au bout
là,
de la course.
Il faudrait que dans la partie méthodologie, le chercheur puisse décrire exactement tout ce qu'il fait pour obtenir les résultats, mais le problème, si c'est des choses non conscientes, ou vraiment dans les micro-détails,
oui, c'est très difficile à identifier. Oui, parce que la plupart de ces manipulations, comme tu dis, sont involontaires, le plus souvent, ou en tout cas inconscientes. C'est pas le chercheur qui consciemment cherche à produire les résultats qu'il veut. C'est son expérience qui travaille et qui va, voilà, inconsciemment lui faire des petites modifications.
Enfin, ceci dit, en bon sceptique, je dirais que c'est quand même un continuum.
Certainement.
Il va avoir des chercheurs qui vont peut-être manipuler de manière plus
Oui.
proactive et plus volontaire et moins éthique. Mais le problème se pose même avec des chercheurs qui se veulent très éthiques. Voilà, les choses, il y a visiblement des choses non conscientes qui se passent.
Oui, certainement. Et sur la méthodologie, il parle même, à un moment donné dans l'article, d'une possibilité de soumettre même des vidéos qui montreraient en fait la procédure en détail. Comme ça, bon, c'est extrêmement difficile à mettre en place, évidemment. C'est difficile de soumettre des vidéos, mais enfin, dans un processus de publication scientifique en tout cas. Mais ça pourrait être une des options pour essayer de contrebalancer cet effet, mais ouais, peu de chances que ça marche vraiment, à mon avis.
C'est clair. Mais ça, c'est vrai que ça pose quand même beaucoup de questions sur la robustesse. J'ai envie de parler en anglais.
La robustesse.
La robustesse, oui. sur les voilà, sur ce qu'on pense savoir, par exemple, dans un domaine comme la médecine ou la psycho, alors qu'en fait les effets sont pas avérés. Et évidemment, il y avait le fameux cas de James Randi, hein, qui était allé, je crois que c'était Siam, scientifique américain, qui l'avait envoyé chez Benveniste, hein, dans l'affaire de l'histoire de la mémoire de
Ouais,
l'eau.
ouais.
Et voilà, il est allé dans le laboratoire pour voir comment ça se passait vraiment dans le labo. Et une fois que tu es dans le labo, les choses se passent différemment, quoi. Enfin, pas différemment, mais tu observes d'autres choses qui pouvaient expliquer les résultats,
Oui.
que le compte rendu ou de la méthode qui était rapportée, sur le papier.
Ouais. D'ailleurs, est-ce que sous la supervision de Randy, il n'arrivait pas du tout au même résultat?
Oui, je
C'est
pense que c'est ça. En tout cas, Randy avait identifié ce genre de problème.
ça? Ouais.
Il y avait aussi un autre exemple dans la littérature sceptique qui est assez connu. C'était Suzanne Blackmore qui avait été dans un laboratoire de parapsie où ils faisaient des recherches sur le Ganzfeld. Et là encore, quoi, elle avait participé en tant que participante à la recherche sur invitation de son collègue et sur place, sur le terrain, elle observait des tas de détails qui potentiellement pouvaient induire des biais ou expliquer un effet statistique faible qui n'était pas détectable lorsqu'on lisait juste la méthodologie. Encore une fois, c'est finalement pas que des problèmes. Ce que ces articles montrent, c'est que c'est pas que des problèmes spécifiques à ces sujets-là. En fait, c'est des problèmes générique dans toute la
Oui,
science.
absolument, absolument, qui sont vrais en médecine, qui sont peut-être vrais, mais peut-être à moindre raison dans la physique aussi, j'imagine. Je connais moins bien le milieu de la physique pure, mais j'imagine que ça existe aussi, ouais.
Bref, il faut être sceptique.
Voilà, jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Et il faut être patient aussi, je crois, dans la façon dont les résultats scientifiques sortent. Il faut laisser faire un peu l'épreuve du temps. Alors, pas au sens de comment je parle pas ici des techniques séculaires qui, parce qu'elles sont là depuis 200 ans, sont d'office une preuve que ça marche, mais parce que ici, là, ça se passe souvent dans des milieux qui ne sont en fait pas scientifiques, mais dans le milieu scientifique, ça met du temps avant d'avoir une certitude sur un sujet bien précis, et il faut des expériences, des réplications ou pseudo-réplications, des méta-analyses, et puis laisser le temps faire l'affaire, laisser les critiques venir, et puis voilà, petit à petit, la connaissance se crée. Mais ça met du temps, quoi.
Oui. Enfin, en tout cas, pour les problèmes de réplication, je pense vraiment que là encore, c'est une question de changer Enfin, de faire ce que la méthode scientifique de faire, c'est-à-dire encourager les gens à faire des vraies réplications.
Ouais.
Et la seule manière de le faire, c'est de valoriser les vraies réplications, que les journaux les publient,
Voilà.
etc. Donc ça, c'est même pas... C'est plus un problème sociologique des sciences.
Oui, c'est ça, c'est un problème sociologique. Hein. C'est... Mais je, si ne fût-ce que la proposition de l'autre article d'arriver à faire un processus en deux étapes de publication, rien que ça rassurerait un petit peu les chercheurs qui se diraient ok, on peut se permettre de faire une réplication stricte, on peut se permettre de publier des résultats négatifs. Je crois que ça soulagerait pas mal de gens dans la recherche qui oseraient plus. Se lancer dans les réplications s'ils savent qu'ils peuvent être publiés.
On pourrait imaginer un mauvais cas de figure en disant ben, il soumet l'article en deux étapes comme tu as dit, mais comme les gens voient que c'est une réplication, les reviewers disent bon, l'article n'est pas suffisamment intéressant, ouais, pertinent, ils pourraient bloquer. Parce que ça, c'est la pertinence de l'évaluation.
Oui, parce que c'est vrai, il y a deux éléments. Il y a la méthodologie, la robustesse, mais il y a aussi, effectivement, est-ce que c'est intéressant comme question. Et c'est clair que là, oui, même le processus en deux étapes ne permet pas de pallier le problème.
Oh, voilà. Je crois qu'on a beaucoup parlé en fait. Oui. Et donc on a fait un épisode beaucoup plus long qu'on le pensait. Je pense qu'on est.
Il y avait deux articles. Hein.
Ouais, on est arrivé à la conclusion à laquelle on est arrivé. Qu'est-ce que je pourrais dire, ça, rien de spécial en fait. On va juste dire à une prochaine.
À la prochaine.
Sceptiquement vôtre. Je vais faire ma finale vraiment. C'était le balai de scepticisme scientifique, sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel. Non, c'est moi Jean-Michel en fait.